Jérémie venait au roi. En ces jours-là, un homme vint de Baal, Sabuka, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée. L'homme de Dieu vint pain d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens-là pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il leur donna. Ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Excusez-moi. Nous rendons grâce à Dieu. Il venait de où ce serviteur d'Élisée le prophète? De quelle ville?
De Baal Salisha.
Vous pouvez répéter?
Baal Salisha.
Ah, répétez une troisième fois. Parce que vous avez mangé une lettre.
Non. Baal Salisha.
Baal Salisha. D'accord. Merci beaucoup.
Tu trouves, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Que tes heureux, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils liront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ouvre, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, ils rassasient avec bonté tout ce qui vit.
Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Tu ouvres la main, Seigneur, et nous voici rassasiés.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, il s'est levé parmi nous. Alléluia, Dieu visite son peuple. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Hallelujah, 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 hallelujah.
soit avec vous. Et avec vos esprits.
Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon saint Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passe de l'autre côté de la mer de Galilée, qui s'appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, il la gravit, et là il s'assied avec ses disciples. Or voici, la Pâque, la fête des Yéhoudim, était proche. Alors il lève les yeux et il voit une foule nombreuse venir vers lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Jésus disait cela pour mettre à l'épreuve Philippe, parce que lui, il savait bien ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. André, un autre de ses disciples, le frère de Shimon Kepha, lui dit, il y a là un jeune garçon, il a bien 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit-là. Alors, il s'assit. Ils étaient en nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prend les pains, après avoir rendu grâce, il les distribue aux convives et il leur donne aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Et quand ils eurent mangé à leur faim, voici ce qu'il dit à ses disciples. Rassemblez les morceaux en surplus et que rien ne se perde. Et voici, ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers pleins avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. En voyant ce signe que Jésus accomplissait, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait bien qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi temporaire. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui tout seul, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qui répandent parfois son huile vivifiante sur toute l'ordre de la terre, qui pénètre en bénédiction palpitante dans toutes ses races soifées de sainteté réellement pure, parfaite et accomplie, que cela puisse voir s'ouvrir devant leurs yeux, dès cette terre, les portes de la Jérusalem d'en haut, libre de toute entrave, lavé de toute faute pour les noces de l'agneau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia. Louange à toi. cinq pains et deux poissons, cinq. C'est la transverbération, Marie, cinq. Transverbération s'inscrit dans la... Quand vous lisez la Bible, frère Claude, tu le sais bien, quand vous avez des nombres dans l'évangile, 1, 5, 7, ça correspond à une réalité que nous n'avons pas l'habitude de voir, une réalité qui existe avant la création du monde à l'intérieur de Dieu. D'accord ? Par exemple, 2, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité. Hein ? Ah, c'est la première personne de la très sainte Trinité. Facile. C'est très simple finalement. Mais 5, c'est quoi ? 5. C'est parce que Marie, l'Immaculée Conception, elle vient pas des hommes. Elle vient du principe d'avant la création du monde. 5, c'est ça. Il y a 5 choses dans le Bereshit, ce qu'avait expliqué Jésus à Moïse. Et cette transverbération de l'Immaculée Conception, la transverbération, c'est 5. Parce que la transverbération l'inscrit dans l'incréé. C'est pour ça qu'on dit avec Marie-Stella des Félix et des Porta, parce que la félicité incréée de Dieu d'avoir la création du monde passe librement à travers la transverbération de Marie. Du monde incréé de Dieu d'avoir la création du monde, au monde créé dans lequel nous sommes. Parce qu'il prend Félix et il porta. 5 et 2, évidemment, vous avez compris que c'est l'union hypostatique déchirée. Hein, c'est les deux natures ouvertes qui sont aussi une félicité. Passe librement, sans voile. Sans voile. Et donc, c'est à partir, nous voyez, quand on vit de la transopération et l'union hypostatique déchirée. Alors, on peut. Faire surabonder le fruit du sacrement de l'Eucharistie. Comprenez ? Dans la res du sacrement. C'est dans la cinquième étape, comme nous l'avons vu ce matin. Quelle étape est essentielle de l'Eucharistie ? La seule chose qu'on doit apprendre pour la messe, quand on a la foi catholique. Le reste n'a pas d'importance. Mais ce qu'il y a ici dans ce cinquième, oula, depuis le concile d'Éphèse, c'est-à-dire il y a 1400 ans, 500, c'est l'essentiel. Voilà, c'est la cause finale, c'est la fameuse cause finale, la persévérance finale dans l'Eucharistie. Alors à ce moment-là, il y a la surabondance. C'est-à-dire que la transverbération dans l'union hypostatique de Jésus, c'est-à-dire dans l'église primordiale de la poisson. Et l'Église accomplie finale peut donner sa surabondance dans les noces de l'agneau, surabondance pour ça l'Eucharistique. Oui, vous savez, la multiplication, elle est là. Hein. Et la multiplication, ça dépend de la foi dans le cinquième saut de l'Apocalypse. Donc je crois que c'est assez facile, à force on a l'habitude finalement. Pourquoi ? Parce que dans l'ouverture du cinquième saut, cette transverbération, cette union hypostatique déchirée, s'associe, et dans l'au-delà de l'unité des deux, les temps s'ouvrent pour la paternité de Dieu, qui produit partout, dans toute matière vivante, l'Immaculée Conception, mille, et la transverbération à l'unité, dans la paternité libre de Dieu en nous. C'est ça la sainteté de la France. C'est assez facile de lire l'évangile, vous savez, quand on fait de l'interprétation littérale. Ça, c'est l'interprétation littérale, basique. Uniquement avec les chiffres. Après, il faudrait faire l'interprétation spirituelle, l'interprétation d'amour, troisièmement, puis ensuite l'interprétation, celle de la transformation surnaturelle de la septième demeure. Mais on n'a pas le temps, parce qu'on est gens très pressés de manger. à Dieu, j'ai une petite défaillance qui fait que je suis obligé de m'asseoir. À l'époque d'Élisée le prophète, c'est celui qui a reçu le premier à être revêtu du scapulaire du Mont Carmel. Et il y est parti, il a déposé le scapulaire du Mont Carmel en partant avec son char de feu. Il a jeté son manteau à deux pans, qui représentait le sacrement de la présence réelle de la Vierge d'Israël. Et de son origine dans le Sacré-Cœur, dans le cœur de l'agneau immolé. Mais quand on est revêtu de ce scapulaire, on a la présence, on est coincé sacramentellement entre les deux. Alors on est préservé. C'est pour ça qu'on est revêtu du scapulaire. Le premier à avoir revêtu le scapulaire du Mont Carmel, c'est Élisée, le prophète. Vous le saviez ça? Sinon, on peut vous acheter une Bible. Premier livre des rois. Vous ne saviez pas que le prophète avait été emporté sur un char de fer? Ah oui, d'accord. Vous ne saviez pas qu'il a laissé son scapulaire?
Non, on ne dit pas le scapulaire, on dit son manteau.
C'est scapulaire, c'est le manteau.
Ah ben oui, mais on ne le dit pas, on
n'a pas. Non, mais vous n'êtes pas censé être idiot.
Ah ben si.
Je sais que
il va falloir refaire complètement votre catéchisme de base. Heureusement qu'on a frère Claude qui sauve l'honneur.
Je me réveille.
Toujours emporté.
Et
une chose est sûre, c'est que on a fait la première lecture avec Élisée voit son serviteur qui arrive de Baal-Salissa. C'est dur à prononcer, hein, pourtant c'est facile. Baal-Salissa. Et tous ceux qui font cette lecture depuis toujours, hein, chaque année, hein, ils n'arrivent pas à prononcer ce mot qui est très facile. Baal, Salissa. À chaque fois, je les arrête. Vous recommencez, s'il vous plaît. On n'écorche pas un mot de la parole de Dieu. C'est très important. Chaque lettre, c'est essentiel dans la parole. Chaque chiffre. Si au lieu de dire 5 pains et 2 poissons, tu dis 6 pains et 12 et je sais pas, et 3 écrevisses, ben ça va pas. Oh, écoutez, c'est pas grave. Faut bien faire une traduction nouvelle, plus proche de la Bible d'Hostie. Je m'en fiche d'Hostie, moi. De Tob. Je m'en fiche de Tob. Moi, c'est Job qui m'intéresse, c'est pas Tob. Le pauvre respecte tout. Baal Salissa, ça veut dire quoi? Ah. Et là, ce serviteur arrive avec 100. Oui, avec rien du tout, une centaine de. Auprès d'Élisée, celui qui a reçu le scapulaire. C'est beau, ça. Le scapulaire du Mont Carmel. Je vous dis ça parce que je vous préparais. Parce que d'ici les 3 ou 4 jours qui viennent, ceux qui n'ont pas reçu le scapulaire du Mont Carmel sont invités à le recevoir. Les combats vont être terribles. Et ceux qui revêtent le Mont Carmel seront préservés. Ils ont le sacramental de la préservation, c'est le bouclier. Quand j'ai été ordonné prêtre, l'évêque m'a donné ce jour-là la délégation épiscopale. J'ai le pouvoir de l'évêque pour revêtir les fidèles du scapulaire du Mont Carmel. C'était trop tard pour lui, parce qu'une heure avant qu'il m'ordonne, j'ai dit je suis le premier. Jamais vous n'avez ordonné un prêtre, je suis le premier. Je suis le premier. Si vous ne me donnez pas votre délégation, votre pouvoir, pour donner le scapulaire du Mont Carmel, eh bien, je refuse. Je ne donne pas l'Eucharistie à des gens qui sont entre les mains de l'Antéchrist. Il faut qu'ils soient protégés. Et il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a été obligé de me donner le pouvoir. C'était tout organisé. C'était un peu risqué, mais j'ai pris le risque. Un prêtre comme ça n'a pas le pouvoir de vous donner ce qu'a pu dire Mont-Carmel. Il n'a pas le pouvoir. C'est réservé à la plénitude du sacerdoce, de l'épiscopat. Vous ne saviez pas ça? Il y a plein de gens qui ont un scapulaire ou la médaille scapulaire, mais c'est en attendant. En attendant qu'ils puissent être consacrés à la fraternité immaculée et surnaturelle du Mont-Carmel, sur le souffle de l'île prophète. Le premier à avoir reçu ce scapulaire, c'est Élisée. Du coup, il a ressuscité les morts, il a multiplié la nourriture. 200. C'était pas à partir de 5 et 2, c'était à partir de 200. Ce serviteur venait de Baal Shalisha.
Oh.
Baal, c'est le dieu rebelle en Mésopotamie, le dieu païen.
Shalisha, c'est le père.
Oui, mais en hébreu. Oui, ça dépend justement. Parce que Baal Shalisha, ça peut être lui à d'en haut ou d'en bas. Baal Shalisha, c'est le bas, hein. C'est vrai, c'est le Baal, c'est le démon, c'est les affidés, quoi. C'est les affidés que Dieu regarde, mais avec horreur. Baal. Ça se termine par un Lamed. Lamed, Dieu les regarde. Mais... c'est curieux, ça correspond au français, là, pour le coup. Hein. Il nous voit comme étant vraiment vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ils adorent le bas, quoi. Ils adorent vraiment. Ils inversent l'amour de l'homme et de la femme vers le bas. Ils adorent ça. Et Dieu les regarde là-dedans. Baal. Shalisha. Shalisha. Mais il y a un côté interprétatif qui est le principal, bien sûr. C'est Baal. Il y a un hé quand même. Baal. Ah, c'est vrai. Le fils du repentir, hein, c'est Baal. C'est le... Baal, c'est un hé, là. Sur le souffle de l'Esprit Saint, il y a l'enfant sur le souffle de l'Esprit Saint. L'enfant Baal, sur le souffle de l'Esprit Saint, sur le souffle du parfum du Verbe de Dieu. Plus exactement. Il se trouve dans l'adoration, hein, et uni avec le regard de Dieu sur lui. Baal. Shalisha. Dans Shalisha, vous avez Shalom. La paix. Un regard sur lui et ça produit le Shalisha. Qui se reproduit, hein, qui se double. On produit une surabondance de paix sur paix dans le Verbe de Dieu. Et c'est quand on est des pauvres esclaves qui apportons ce pas à Shalisha là, à Notre-Dame du Mont-Carmel. Du mystère de Marie. Alors il y a la multiplication. La multiplication de la nourriture pour tout le peuple. Alors il y aurait beaucoup à dire, voyez, mais vous avez l'essentiel, disons, de la porte d'entrée dans l'interprétation littérale de ce passage. Jésus remarquait bien que comme on s'approche justement du mystère d'Élie, hein, que nous sommes le nouvel Élisée, les nouveaux multiplicateurs, les nouveaux multiplicateurs du temps, les nouveaux multiplicateurs dans l'âme, de la fécondité eucharistique dans les multitudes, Donc l'évangile de la multiplication est quelque chose de très très fort pour nous. Et on dit, voilà, vous voyez bien que le roi, c'est pas un roi temporel. Le grand monarque, c'est pas un roi temporel. Et Jésus savait, vous voyez bien qu'il voulait l'emporter pour être un roi temporel. Alors Jésus s'est séparé, même des apôtres, hein, pour se retirer tout seul. Tout seul. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il s'est retiré, il croyait bien, personne ne savait où il s'est retiré. Et c'était dans un endroit précis, c'est pas qu'il était devenu invisible aux yeux des autres, non, non. Parfaitement visible, au moins à la matière, hein. À la vie végétative, à la vie animale, mais à la vie humaine, pas la peine. Les hommes n'aiment pas Dieu, alors. C'est comme si, mais jamais. Il n'y a plus un seul qui échappe à cette espèce de distance. Sauf le roi. Et il n'y en a qu'un. Et il est tout seul. Donc tout ça nous parle beaucoup, hein. Ça nous parle quand même. On ne peut pas dire que ce n'est pas marqué. Il n'y a que celui qui ne veut pas le comprendre, qui ne le comprend pas. Celui qui ne veut pas le voir, qui ne le voit pas. C'est l'interprétation immédiate, quoi. Il faudrait qu'on apprenne l'interprétation dans l'union transformante aussi. Voilà, ça c'est super. On n'a pas le temps parce que ça commence à aller mieux. Il faut aimer cette sainteté qui sert de principe et de source à l'immaculée conception qui se représente dans toutes les oui, dans toutes les innocences, dans toutes les illuminations des consciences, des cœurs et du sang. Extraordinaire, chaque goutte de sang, qui redevient limpide et identifié parfaitement au diamant, où réside la très sainte Trinité et le roi. L'autre, la lunité du diamant et la goutte de sang. Dans l'Immaculée Conception qui fait l'unité. Marie fait toujours l'unité dans l'un. Et d'obtenir cette grâce-là pour cette demi-heure merveilleuse, c'est notre mission. Nous avons été choisis pour ça. Dieu nous a appelés. Il en a choisi quelques-uns, éliminé d'autres. Il ne prend que les cœurs purs. Je ne veux pas dire par là que nous avons le cœur pur et les autres non. C'est pas ça que j'ai dit Dieu ne choisit nous. Et c'est vrai qu'il ne choisit pas d'autres. Il ne choisit pas tout le monde. Pourquoi? Ça, c'est une autre affaire. En fonction de la cause finale, il sait jusqu'où nous irons. Il sait que nous irons à la grâce et que nous laisserons tomber les grâces et que nous irons à la grâce. Et ça, personne ne peut le savoir que lui. Alors il choisit quelques-uns. Ce qui ne veut pas dire que ceux qu'il a choisis seront fidèles jusqu'au bout, mais dans l'état actuel, oui. Peuvent changer. Hein. On peut toujours se désinscrire du choix de Dieu. C'est pas automatique, la liberté demeure. Mais dans l'état actuel, oui. Alléluia. Tant mieux, restons fidèles, allons jusqu'au bout. Surtout quand c'est à la fin. Hein. On s'habitue à ça. Et pas se tirer juste au moment de la fin. Pour n'importe quoi. vous savez, vertu pousse sa force de poser des actes. Ce que dit Saint Thomas d'Aquin, si vous posez 1000 actes dans une vertu, elle commence à être là. Comme un habitus, comme une seconde nature. Voilà. Que ça devient une seconde nature de n'être que dans la grâce finale. Il faut que ça devienne notre seconde nature. Jésus se retire seul. Le roi n'a aucune grâce, vous entendez ? Aucune, sauf la grâce finale. Le roi de France n'a aucune vision, aucun songe, aucune intuition, aucune parole, rien, aucune grâce. Mais il a la grâce finale, c'est la seule qui l'intéresse. C'est la seule. Et comme ça, a toujours été comme ça, grâce à Dieu, qui ne s'est jamais attaché à des grâces, mais à la grâce. Alors à ce moment-là, c'est lui le roi. Et malheureusement, le bon Dieu n'en a trouvé qu'un. S'il fallait que l'écriture s'accomplisse. Ne nous accrochons pas à nos grâces. Sinon, on ne sera pas inscrit dans la grâce pour laquelle Dieu nous choisit. Nous sommes les enfants. Les enfants, c'est nous. Alors, la purification de la chair avant l'ouverture du temps, c'est la purification des grâces. C'est toutes les perles, des milliers de perles adorables, complètement dingues. À jeter, c'est pourtant elles sont belles, c'est des perles, elles viennent de Dieu, pour acheter la perle, pour n'avoir que la perle. Ah, mais celui qui dit, attends, moi, quand même, avec tout ce que mon Dieu m'a donné, là, hein, je suis sûr de mon truc, là. Tu es sûr de ton truc, tu vas voir quand la terre va s'ouvrir. Prends garde, le tartare, c'est très chaud et ça dure toute l'éternité. C'est Dieu qu'on cherche, c'est pas nos grâces à nous. Et le roi est comme ça, il se retira seul, tout seul. Et il n'y en a qu'un, c'est pour ça qu'on l'aime. Et comme on l'aime, on se nourrit de son amour à lui, et du coup on fait comme lui. Vous comprenez ? Et du coup on devient les enfants du royaume, du monde nouveau. Les instruments du paraclet. L'autorité par laquelle s'opère la disparition et l'éradication définitive du mauvais de la terre, que nous appelons l'Antichrist. Dieu nous choisit pour ça, alors excuse, bon, très bien, ça prouve qu'on n'est pas très riche, hein, selon l'esprit de ce monde. Ça prouve qu'on n'est pas très intelligent. Ça prouve qu'on est fou, cassé, brisé, débile. Parce que ceux qui sont bien selon l'esprit du monde, c'est pas cela que Dieu choisit pour ça. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de glandu dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de débile dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. L'intellectuellement correct, c'est même pas la peine d'y penser. Dès que vous voyez un intellectuellement correct, c'est sûr qu'il n'est pas choisi. Celui-là il est drôlement bien. Pff, les harmonies, les énergies, et puis il aime les animaux. Hein. Celui-là il ne sera pas choisi, ça vous pourrez être absolument certain. Celui-là. Oui, c'est simple finalement. Jésus aimait tellement ce qu'il y a de broyé dans le monde. Voilà ce que Dieu choisit. Ce qu'il y a d'impuissant dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est un Job qui n'a pas retrouvé ses richesses. C'est un roc tout perdu, qui est sur le fumier, rempli de serre, boiteux, ridiculisé par son épouse, écrasé par ses proches. Méprisable, méprisé par lui-même, pourri. Mais c'est le saint, le grand saint du nouvel Israël. Le plus grand saint de l'ouverture des temps. Celui que Dieu choisit pour être le principe de du don qui marque les conceptions, de toutes les conceptions, de tous les êtres humains. C'est quand même... Le mystère de la croix est un mystère d'une fécondité extraordinaire, merveilleuse. Et il le sait, c'est pour ça qu'il aime être seul. Il ne sait pas qu'il est roi, mais il sait qu'il est englouti dans le mystère de la croix accompli. En plénitude reçue, ça, il le sait. Qu'il est le roi, il ne le sait pas, ça je peux vous le dire. Il est trop pauvre pour ça. Trop broyé, trop massacré. Il boite. Là aussi, ça c'est beau ça. C'est un boiteux. Je vous ai bien observé. D'un estropié. Quelque part, tellement étourdi par le mépris universel que de ses proches, je veux dire. Pas les autres, en fait. Qui t'attonne. Étourdi de souffrance, d'humiliation. Cinglé au sens philosophique, il est cinglé parce que la folie de la croix est une folie pour les sages et pour l'intellect, pour le correct, l'intellectuellement correct. Voilà, alors c'est bien. On l'aime, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous faisons l'oraison pour ça, avec le scapulaire, c'est-à-dire avec l'esprit d'Élie, pour voler. Et notre cœur vole à l'intérieur de l'amour qui brûle son cœur à lui. Son amour est beaucoup plus grand, immensément plus grand, que celui de tous les saints. Que la terre apportait, sauf Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'était avant la mort du Christ. Tous les Saint-Joseph depuis la Pentecôte. Beaucoup plus grand. C'est extraordinaire de savoir que nous avons un saint. Et qu'il est pour nous. Hein? Alors nous l'aimons. Et donc on se... C'est facile, hein, dans l'union transformante. Cinquième demeure, il faut être dans la cinquième, c'est vrai. Pour voler à l'intérieur du cœur, avec notre cœur spirituel, dans l'amour sublime, si immensément grand qui est dans son cœur, lui. Et de nourrir, du coup, de nourrir, notre cœur spirituel se nourrit de cet amour-là. Et du coup, ça y est, on a fait un acte d'amour humain, une fois dans notre vie. Parce que c'est vrai qu'on a perdu l'habitude d'aimer avec son cœur humain spirituel. Mais au moins, si on le fait avec lui, ce qui sera facile, on aura fait au moins une fois un acte d'amour humain. On aura un ami, on aura un amour d'amitié. Et on va coopérer avec lui. Et il y aura en commun l'amour qui est dans son cœur. Et du coup, c'est ça l'amour d'un métier. L'amour d'un métier, c'est qu'on a quelque chose en commun de substantiel. Oui, l'amitié, c'est quoi? C'est quand votre cœur aime quelqu'un et il l'aime, c'est votre ami. Vous l'aimez, et il vous aime, c'est réciproque. Ah, Aristote dit quoi? C'est parce qu'il y a en commun quelque chose. Par exemple, vous cherchez la vérité. Vous êtes deux. Alors, la mise en commun, c'est l'amour de la vérité. C'est une amitié philosophique. Vous passionnez, mais passionnez pour les animaux. Mais passionnez pour les petits chiens. C'est formidable, tu sais. Au moins, ils sont plus grands que les hommes. Ils sont plus fidèles, ils sont plus intéressants. Ils ont beaucoup plus. Ils ont eu des vies antérieures tellement plus sublimes que... Bon, bref. Donc vous avez une amitié avec quelqu'un qui partage votre amour pour les petits chiens. Vous avez une amitié canine. La mise en commun. Chacun a une amitié différente. Vous pouvez avoir une amitié perverse aussi. Vous êtes dans une perversion totale et l'autre a la même perversion totale que vous et vous mettez en commun cette perversion. C'est une amitié perverse. Si c'est une amitié eucharistique, c'est mieux. Il faut mieux prendre des exemples plus sympas. Si c'est une amitié humaine, vous découvrez dans le cœur de votre ami sa passion pour la bienveillance vis-à-vis de tous les autres. Et vous aussi, vous avez une passion pour la bienveillance vis-à-vis de tous les autres. Ça devient une amitié humaine. Vous avez en commun cette passion pour la bienveillance de tous les autres. C'est une amitié humaine. Oui, je viens de faire tout petit résumé de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Eh bien, avec le roi, quand on rentre dans son cœur et qu'on a en commun avec lui l'amour qui est le sien, et qu'on y coopère ensemble, on a une amitié royale, ultime, philosophiquement. Mais on a ça en plus parce que, en plus de ça, on a quelque chose de surnaturel, hein. Du point de vue du mariage spirituel, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi tout le reste sur le plan surnaturel. Et puis sur le plan de Félix Téliportat, du flux du reflux libre, de l'ingré au gré, du gré à l'ingré dans la félicité de Dieu. On a tout ça en plus, mais déjà il y a la base de l'amour d'un métier. Si vous avez un amour fou pour l'au-delà de la sponsalité, l'au-delà de l'unité sponsale, c'est un amour sponsal. Hein? Il y a des tas de gens qui sont mariés et qui n'ont pas d'amour, d'amitié sponsale. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent leur amour pour lui et l'autre cherche son amour pour moi et du coup il n'y a pas d'amitié sponsale. Chacun fait un effort pour aller vers l'autre, et du coup, il n'y a aucune amitié sponsale. Vous comprenez? C'est une passion pour la recherche de l'au-delà de l'unité des deux. Et on coopère à pénétrer, à cultiver l'au-delà de l'unité des deux. Alors à ce moment-là, ça y est, ça devient une amitié sponsale. Avec Bernard. On s'en fiche qui m'aime pas. Est-ce qu'il m'aime? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? C'est pour... Bien sûr que le chien et la chienne ont besoin de sentir qu'il y a une... Mais pas un homme et une femme. C'est de la responsabilité. S'il n'y a pas d'amitié, mariage et voie d'échec. On va dans un mur, c'est normal. Il vaut mieux divorcer, hein. C'est mieux. Hein. Et plus vite on divorce, c'est mieux. Hein. Faut pas rester dans de la bouillie, quoi, de chat. On se marie, enfin voyons. Alors donc, amitié sponsale, voyez, on a en commun l'au-delà de l'unité des deux. La couleur verte, c'est ça. On y coopère. Et à ce moment-là, cet amour-là, non seulement est indissoluble, il diminue jamais. Il ne cesse d'augmenter. Et il va jusqu'à l'ultime. Et en plus, si vous avez la bénédiction sacramentelle, n'en parlons pas. C'est étourdissant. C'est pour ça qu'on ne salit pas l'amour entre l'homme et la femme en brisant la chasteté avant le jour de la sponsalité devant Dieu. C'est un sacrilège. Sixième commandement de Dieu. Donc si on ne respecte pas le commandement de Dieu, on passe à la caisse, hein, c'est normal. Il n'y a qu'un seul responsable, c'est nous, hein, si on ne veut pas respecter le commandement de Dieu. C'est tout à fait normal, je veux dire, on récolte ce qu'on a semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu sèmes de l'ivraie, tu récoltes de l'ivraie. Tu ne peux pas récolter des diamants, quand même, si tu as semé de l'ivraie. Hein? Voilà, donc tout ça pour dire, voyez, Jésus, voyant qu'il voulait faire de lui un roi temporel, se retira tout seul. Alors voilà, pour nous, c'est très très fort, ça. Parce que c'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. Et aussi celui de la femme. Et quand ton cœur c'est un ermite qui vous dit ça. C'est la solitude qui structure profondément le cœur de l'homme. Bien sûr, parce que la solitude, elle est habitée. Et se livre librement, du coup, dans l'un, à cette perdition, dans ce qu'il y a de plus grand dans la mort de l'autre, et la relation dans la mort de l'autre, dans la coopération, le fait de l'unification dans l'au-delà de l'un et de la relation à l'autre. Hein. Et à ce moment-là, on trouve l'indivisibilité. Et l'indivisibilité, c'est le fruit de chaque sacrement, c'est l'indivisibilité. Hein, c'est pour rappeler ça. Qui est minusculement petit, infiniment petit dans la réception eucharistique de la communion. Voilà, doit être transporté jusque dans l'indivisibilité pour que l'Eucharistie puisse être immensément grande, comme c'est sa vocation, dans la communion. La communion est infiniment petite, et puis elle se perd, vous voyez, la graine, ah, je l'ai mis, la graine, mon petit talent, je l'ai mis dans la terre, hein, pour que j'ai quand même communié, hein, je l'ai bien gardé dans ma terre. Hein. Attends, tu rigoles ou quoi? Il faut que ce que tu as reçu de l'Eucharistie, voilà, c'est l'infiniment petit, ça, se transmette dans la terre de l'Immaculée Conception, qui ramasse toute la matière de tout l'univers, et la plante dans l'indivisibilité de Dieu pour que ta communion eucharistique devienne l'infiniment grande, la communion donnée. Si c'est pas la communion donnée, dans l'infiniment grande, la communion donnée, tu as communié pour rien. Tu as communié pour ta condamnation. Ah, ça m'a quand même fait du bien, ça me donne des forces pour continuer. Pour continuer quoi? Pour continuer quoi? Intellectuellement correct. Il y a un moment, il faut mettre un arrêt quand même. Ah, moi je vis des grâces, hein. Ah, tu vis des grâces. Pour continuer mes grâces, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est fait? Oh mon Dieu! Mais c'est pas vrai, quoi. Mais arrêtez. À un moment, j'ai ouvert la Bible. J'ai arrêté ce mille-toi. Il y avait marqué dans le livre de Jérémie. Stop! J'ai refermé. Et j'ai dit à tout le monde, stop! Quand même. Et depuis, c'est ce que j'essaie de dire le plus possible. Arrêtez! Si à l'amour de Dieu, suite, ça rentre. Et ça part par l'indivis. Voilà la grâce. La grâce finale. La grâce ultime. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce dernière. La grâce du roi. La grâce de la France. Alléluia. Je vous demande pardon. Mais je vous affirme, j'aurais pas pu la célébrer tout à l'heure. J'aurais pas pu.